Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre s'insère dans le grand discours inaugural de la prédication du Seigneur Jésus au commencement de sa vie publique. Introduit par les Béatitudes qui dressent le portrait de la sainteté, la première partie de ce discours s'achève par ce que Jésus dit, vous avez entendu dire, eh bien moi je vous dis. Il rappelle la loi de Moïse et annonce la loi nouvelle, avec à chaque fois un progrès considérable. Œil pour œil, dent pour dent, c'était déjà un progrès. Avant Moïse, tu me prends un mouton, je te prends ton troupeau. Et Moïse dit, stop, un mouton, œil pour œil, dent pour dent. C'était déjà un progrès considérable. Et Jésus dit, ça ne suffit pas. On t'a dit, tu aimeras tes amis et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis que tu aimeras tes ennemis. Jésus veut nous mener à la perfection de la charité. Alors ce matin, c'est l'amour des ennemis, c'est le pardon. À d'autres endroits du même discours, c'est « on vous a dit que vous pouviez répudier votre femme, bien moi je vous dis non ». Perfection de l'amour. Arrêtons-nous ce matin sur deux mots que nous avons entendus dans ces trois lectures, deux mots qui peuvent par certains côtés faire un peu peur, et pourtant, ils sont le cœur de notre vie de baptisé. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras, soyez saints. » Et saint Matthieu termine le passage en disant, « Vous donc, vous serez parfaits. » On se rappelle du cri lancé par saint Jean-Paul II aux jeunes au JMJ de... en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, « N'ayez pas peur d'être des saints. » On peut dire qu'il place la barre très haute. Mais la vérité de l'amour impose de ne pas la mettre plus bas que Dieu lui-même, qui est le saint. Quand on parle de sainteté, de saint, on pense être impeccable. Alors le bon larron, saint Dismas, ne serait pas au ciel, ni non plus saint Paul, ni non plus saint Jérôme, ni non plus tant de saints, qui étaient bien mal partis dans la vie, mais que Dieu a rattrapé, et que Dieu a changé et sanctifié. Quand on parle de sainteté, on aligne aussitôt tous les devoirs que ça implique. Les masses d'efforts, le respect des commandements, la nécessité de la prière... tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, le permis, le défendu. Alors là, les casuistes s'en donnent à cœur joie. Et l'on s'aperçoit qu'honnêtement, on est loin du compte. Loin parce qu'on est toujours dans nos faiblesses, toujours dans nos compromissions, parce que c'est un réflexe de la nature d'être dans le légalisme et du volontarisme. Non, la sainteté est une grâce, un don de Dieu, à accueillir généreusement. Quand on parle de sainteté, on va aussi voir dans la galerie des portraits ceux qui ont fait des choses extraordinaires. Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse de Calcutta, les martyrs, que sais-je encore. Ce n'est pas pour nous. Et pourtant, la sainteté est pour nous. Et si l'on cherche du côté des plus humbles, des plus petits, alors on est encore surpris de s'apercevoir que ça n'est pas forcément non plus à notre portée. Car cette petite voix que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, a exaltée, la petite voix de l'humilité, est en fait extrêmement exigeante. Quelqu'un me disait, oui, mais sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est du sucre. Oui, eh bien mange ce sucre, on va voir, on en reparlera. Non, la sainteté de sainte Thérèse, de saint Joseph, est une sainteté extrêmement exigeante. car il s'agit de se renoncer à soi-même, en permanence, surtout, partout. Pas si simple. Et pourtant, nous sommes faits pour être saints. Saint Jean-Paul II avait déjà dénoncé la mauvaise perspective sur la sainteté. Placer ses pas sur ceux de Jésus ne se traduit pas d'abord en choses à faire ou à dire, mais avant tout dans le fait d'aimer, de demeurer avec Jésus-Christ, de l'accueillir totalement dans sa vie, c'est-à-dire de ne rien refuser à Jésus de ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il disait aux jeunes pour le jubilé de la jeunesse en l'an 2000. Alors plutôt que de se demander comment être saint, arrêtons-nous plutôt sur qu'est-ce qu'un saint. Je m'arrêterai à deux aspects, l'un dérivant de l'étymologie du mot, l'autre de la nature de Dieu. À la racine du mot, il y a un premier sens qui apparaît, le sens de séparation, de coupure. Dieu est saint parce qu'il est séparé des hommes et de la création tout entière. Et qu'il est parfait, c'est-à-dire qu'il tient son être de lui-même. Il ne lui manque rien, il n'a besoin de rien, il est. Il est la perfection. La sainteté implique donc une coupure. Une coupure avec ce qui n'est pas, avec ce qui est transitoire, avec ce qui est passager, avec ce qui est profane. Les choses sacrées, saintes, sont celles qu'on touche avec un certain respect. On ne les touche pas sans s'être purifié ou sans avoir été consacré à cela. L'exemple des vases sacrés dont on se sert à la messe, on ne peut pas s'en servir pour aller prendre un bon repas au restaurant. Ça serait un sacrilège, parce qu'elles sont saintes, consacrées au culte pour Dieu, séparées de tout autre vase qui peut être tout aussi beau ou non, dont on se sert pour les repas ou la cuisine. Cela implique donc, pour être saint, d'accepter d'être séparé du profane. Reprendre une expression commune, de n'être pas comme tout le monde. Et ça, dans le concret de la vie de tous les jours, c'est une autre paire de manches. La mode vestimentaire, par exemple. La mode du langage. Mais tout le monde parle comme ça. Alors on va se mettre à parler n'importe comment, parce que tout le monde parle n'importe comment. Et tant d'autres exemples que tout le monde connaît. Il suffit d'aller voir dans notre vie quotidienne. N'être pas comme tout le monde, c'est un bon début. Pour être comme le Christ, bien sûr. Pour suivre le Christ. Mais il faut aussi regarder du côté de la sainteté de Dieu, de la perfection de Dieu, et rechercher dans notre vie ce qui nous établit de façon ferme, durable, dans ce qui est surnaturel, spirituel, les vertus que Dieu nous donne. Et là, il y a une chose qui précisément nous a éloignés de Dieu, mais c'est le péché. Le péché est, pour celui qui le commet, une privation de la perfection de Dieu. Lorsque je suis dans le mensonge, je me prive de la beauté de la vérité. Et là, c'est un enchaînement sans fin. Pour cacher le premier mensonge, j'ai besoin d'un deuxième, puis d'un troisième, et le 99e va cacher les 98 précédents. Parce que je me suis privé de la vérité. Le péché est donc une privation de la sainteté, une privation de la perfection qui est en Dieu et que Dieu veut nous donner. Et ainsi de tous les autres péchés, le décalogue nous les décrit les uns après les autres. Benoît XVI commençait ainsi son encyclique « Caritas in Veritate », la charité dans la vérité. L'amour dans la vérité est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne et de l'humanité tout entière. C'est une force qui a son origine en Dieu, amour éternel et vérité absolue. Chacun trouve son bien en adhérant pour le réaliser pleinement au projet que Dieu a sur lui. Autrement dit, nous ne pouvons pas être saints sans adhérer à la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu nous demande. Vouloir ce que Dieu veut, aimer ce que Dieu aime. Voilà tout le programme de la sainteté. Et cela nous aidera à refuser ce qui nous écarte de Dieu, toutes les tentations qu'on peut rencontrer journellement. Et si jamais on a dévié par notre péché, vouloir ce que Dieu veut, c'est vouloir être pardonné par lui, parce que Dieu veut nous pardonner. Quand on espace les confessions de plusieurs mois, on ne se rend pas compte qu'on fait attendre Dieu qui est pressé de nous pardonner. On ne se rend pas compte que Dieu veut notre sainteté. Et que même si on est tombé, il veut nous relever, il veut nous restaurer, il veut nous réhabiliter dans la sainteté du baptême. Alors être saint, c'est nous accrocher à Dieu, tout simplement. Nous accrocher à Jésus-Christ. Les œuvres morales suivront. Si vraiment je veux Jésus-Christ, je ne voudrais ni du mensonge, ni du vol, ni de l'impureté, ni de quoi que ce soit. Parce que le Christ me comble. Si je veux le Christ, alors, avec sa grâce, je pourrais jour après jour m'approcher de lui, peut-être en ratant de temps en temps une marche, mais il me relèvera pour reprendre la montée de l'escalier. Je termine par celle qui est évidemment et incontestablement le modèle de toute sainteté. Elle nous a laissé dans l'Évangile deux paroles, la Vierge Marie. Modèle parfait de communion à la volonté de Dieu. Dans la seule parole qu'elle a adressée aux hommes, les serviteurs du mariage à Cana, qu'est-ce qu'elle a dit ? Faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsque l'ange vient la voir à l'Annonciation de la part de Dieu, que dit-elle ? Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. »